Le deuil était à Vincennes.
Quand Messer Tholoméi, monté sur sa mule grise et suivi de son valet, pénétra dans la première cour du manoir de Vincennes, il fut surpris d'y trouver un grand rassemblement de gens de toutes sortes, officiers, serviteurs, écuyers, seigneurs, légistes et bourgeois. Mais leur mouvement s'effectuait dans un silence total, comme si les hommes, bêtes et choses, avaient cessé d'émettre le moindre bruit. On avait couvert le sol d'épaisses jonchées de paille afin d'étouffer le roulement des chars et le son des pas. Nul n'osait parler, sinon à voix basse. « Le roi se meurt !» dit à Tholoméi un seigneur de sa connaissance. À l'intérieur du château, il semblait qu'il n'y eût plus aucune défense, et les archers de garde laissaient entrer tout venant. Assassins ou voleurs eussent pu s'introduire dans ce désordre sans que personne songeât à les arrêter. On entendait murmurer « L'apothicaire ! Faites place à l'apothicaire !» Deux officiers de l'hôtel passaient, charriant un lourd bassin d'étain couvert d'un linge, et qu'ils allaient présenter aux physiciens. Ceux-ci, qu'on reconnaissait à leur costume, tenaient conciliabule dans une antichambre. Les médecins portaient un camail brun par-dessus leur robe de bure, et sur la tête, une petite calotte semblable à celle des moines. Les chirurgiens avaient la robe de toile à longues manches étroites, et de leur bonnet rond partait une écharpe blanche qui leur couvrait les joues, la nuque et les épaules. Tholoméi se renseigna. Le roi, la veille encore, se portait fort bien, puisqu'il avait joué à la paume l'après-midi. Puis il était entré chez la reine, et peu après, on l'avait vu se plier en deux et se mettre à vomir. Dans la nuit, se tordant de douleur, il avait de lui-même demandé les sacrements. Les physiciens n'étaient pas d'accord sur la nature de son mal. Les uns, se fondant sur les étouffements et les pertes de conscience, assuraient que l'eau froide, bue après l'effort, avait déterminé cet accès. Les autres affirmaient que ce ne pouvait être l'eau qui avait brûlé les entrailles du roi, au point qu'il faisait le sang sous lui. Discutant plus qu'il n'agissait et se neutralisant, parce que trop nombreux au chevet d'un si haut patient, ils ne conseillaient que des remèdes bénins et n'engageaient guère leurs responsabilités. Parmi les seigneurs de la cour, on se confiait à mots couverts l'affaire de l'envoûtement, en prenant l'air d'en savoir plus long qu'on en disait. Et puis, déjà, on agitait d'autres problèmes. Qui allait prendre la régence? Certains regrettaient que Monseigneur de Poitiers fût absent, d'autres, au contraire, s'en louaient. Le roi avait-il exprimé des volontés formelles à ce sujet? On l'ignorait. Mais il avait appelé le chancelier pour lui dicter un codicille complétant ses dispositions testamentaires. Avançant à travers cette agitation feutrée, Tholoméi put parvenir jusqu'au seuil même de la chambre où le souverain agonisait entre ses chambellans, ses serviteurs et les membres de sa famille et de son conseil. Se hissant sur la pointe des pieds, le chef des banques lombardes put apercevoir, par-dessus un mur d'épaule, Louis X, le buste soutenu par des coussins, et dont le visage creusé et réduit de moitié portait les stigmates de la faim. Une main à la poitrine, l'autre au ventre, les mâchoires serrées, il gémissait. On chuchota « la reine, le roi demande la reine ». Clémence était assise dans la pièce voisine, entourée de ses dames de parage, du comte de Bouville et d'Eudeline, la première lingère dont elle tenait la main. La reine n'avait pas dormi un instant de toute la nuit. Le désespoir et l'insomnie lui étreignaient les tempes, tandis que Monseigneur de Valois, s'agitant devant elle, lui disait « Ma chère, ma bonne nièce, il faut vous préparer au pire !»« Mais j'y suis préparé, » pensait Clémence, « et n'ai point besoin de lui pour le savoir. Dis-moi de bonne heure, était-ce donc tout ce à quoi j'avais droit? Peut-être n'ai-je pas assez remercié Dieu de me les avoir accordés? Le pire n'est pas la mort, puisque nous nous retrouverons dans la vie éternelle. Le pire est pour cet enfant qui va naître dans 5 mois. » Que Louis n'aura pas connu, et qui ne connaîtra son père que lorsqu'il arrivera lui-même dans l'au-delà. Pourquoi Dieu permet-il cela?
Reposez-vous sur moi, ma nièce, de toutes les tâches et difficultés, et songez seulement que vous portez en vos flancs les espoirs du royaume. Votre état ne vous permet guère d'assumer la tâche de régente, et puis les Français souffriraient mal d'être gouvernés par une main de femme étrangère. Blanche de Castille, me direz-vous? Certes, certes, mais elle était reine depuis un plus long temps. Nos barons n'ont point encore assez appris à vous connaître. Je dois vous décharger des soins du trône, ce qui ne me changera guère, au fond. »
Le chambellan, qui venait dire à la reine que le mourant la demandait, entra à cet instant. Mais Valois l'arrêta du geste et poursuivit.
« Je n'ai guère de mérite à me proposer. Je suis le seul à pouvoir utilement régenter. Et je saurai, soyez-en assurés, inspirer aux Français l'amour qu'ils doivent à la mère de leur prochain roi, si Dieu nous fait la grâce que vous attendiez un fils. »
« Mon oncle !» s'écria Clémence. «
Louis respire encore. Veuillez plutôt prier qu'un miracle le sauve ou différer au moins vos projets jusqu'à son trépas. Et plutôt que de me retenir ici, laissez-moi regagner ma place qui est auprès de sa couche.
Certes, ma nièce, certes, mais il est quand même des choses auxquelles il faut penser lorsqu'on est reine. Nous ne pouvons point nous abandonner aux douleurs du commun. Louis, dans son codicille, vous a fait tout à l'heure de grandes donations. Il a généreusement attribué diverses pensions, dont une même à Louis de Marigny, qui vont un peu plus opérer le trésor, mais il n'a pris nulle disposition relative à la régence.
Eudeline, ne m'abandonne pas, murmura la reine en se levant.
Et à Bouville, tandis qu'elle se dirigeait vers la chambre du roi,
« mon ami Hugues, je ne puis pas y croire. Dites-moi que cela n'arrivera pas.